par un froid et pluvieux après-midi de janvier, Radio Primitive se rendit à l'atelier UZB, l'atelier d'Éric et Léo Usabiaga. Léo nous y attendait. Une fois le café servi, nous pûmes commencer un long entretien. Alors, si l'art du vitrail vous intéresse, puisque tel est le sujet, ou si vous ne connaissez rien, mais restez curieux de l'univers de ces passeurs de lumière, je vous conseille de cheminer à nos côtés et d'écouter, mais aussi de fermer les yeux, car à la radio, c'est le meilleur moyen de voir les couleurs.
Salut, Léo, donc compagnon gérant de l'atelier UZB.
Aujourd'hui, en ce début d'année 2024, on est dans votre atelier parce que vous êtes deux à vous en occuper, un atelier qui se trouve rue du Commerce à Reims. Quel est le but de cet atelier? Dans quel domaine artistique, dans quel domaine de l'artisanat nous trouvons-nous?
Alors, donc l'atelier UZB, c'est la création de mon père et moi. Donc on est anciennement vitrailliste de chez Simon Marc à Reims et on a monté notre atelier il y a 2 ans maintenant. Et donc notre volonté, c'était de poursuivre ce métier de vitrailliste, donc l'art du vitrail, en restauration-création et de lui donner une image un petit peu plus contemporaine aussi et d'essayer d'explorer des contenus artistiques qu'on n'a pas l'habitude de voir dans le vitrail et de lui donner quelque part un nouveau souffle.
Avant de rentrer un peu plus dans ce que propose l'atelier, dans le type de création de restauration que vous pouvez proposer, j'ai une petite question. Pourquoi vitrailliste et pas verrier?
Alors vitrailliste, je ne saurais pas te dire d'où ça vient. Je sais qu'il y a plusieurs termes. Donc après, ce qui englobe le métier de verrier, ça peut être souffleur de verre, ça peut être vitrier, tout simplement. Et vitrailliste, c'est tout ce qui touche donc à l'art du vitrail. Donc le vitrail, en quelques mots, c'est du verre, la coupe du verre et sa mise en plomb. Donc c'est des pièces de verre qui sont serties avec du plomb, soudées, ce qui donne une fenêtre, un vitrail.
Maintenant, il nous faut un petit portrait. Donc on a parlé pour toi et ton père d'expériences acquises en partie à l'atelier Simon Marc, que la plupart des Rémois, je pense, connaissent. Et les auditeurs de Primitif, théoriquement, oui, n'ont pas d'excuses puisqu'on en a parlé il y a peu de temps sur cette antenne. Mais on peut revenir encore un peu plus loin, peut-être commencer par l'histoire de ton père. Pourquoi il a poussé la porte de l'atelier? Est-ce que d'ailleurs ça a commencé avant cela? Comment, pourquoi, quelle envie? Et puis après, est-ce que c'est de la transmission? Comment tout ça s'est mis en place? Parce que le vitrail est quand même pas... Je pense qu'il y a peu d'enfants au berceau qui se disent « Bon, ben moi je vais faire ça quand je serai grand », donc comment c'est venu?
Alors, mon père, c'est pas tout à fait du hasard. Il était reprographe, donc à l'époque à Champagne-Plan. Donc reprographe, c'est tout simplement, c'est reproduire des maquettes à échelle 1. Des photos, etc. Donc, travailler en tant que reprographe, et l'atelier Simon Marc venait faire ses tirages, donc à échelle 1. Comme un vitrail, on part d'une maquette, et après, il faut l'agrandir à taille réelle. Et donc, ils avaient besoin de main-d'œuvre, et ils ont proposé à mon père de rejoindre l'équipe. Et mon père, donc, il est rentré en 2004 à l'atelier Simon Marc, et l'atelier Simon Marc lui a transmis le savoir-faire du vitrail. Il a commencé par faire nettoyer des pièces, Et puis petit à petit, à apprendre la coupe, la mise en plomb, les chantiers, la pose, la dépose. Donc il a travaillé 20 ans chez Simon Marc. Moi, je l'ai rejoint au bout de ces 10 ans parce qu'il y avait Alain Buisson, donc le peintre sur verre de l'atelier, qui partait en retraite. Et donc il y avait une place à prendre. Et comme l'atelier Simon Marc, c'est quand même aussi une histoire de transmission où on apprend sur le tas. Moi, j'ai eu la chance de le rejoindre avec toute l'équipe et d'apprendre le métier chez Simon Marc.
Alors, je suis sûre qu'on a un raccourci, parce que même s'il y a une place à prendre au niveau de la peinture dans un atelier de vitrail, c'est quand même pas donné à tout le monde. Donc, il y avait déjà des appétences artistiques, où tu avais fait des études, où tu étais en mode autodidacte autour des domaines artistiques.
Oui, non, c'est sûr qu'on n'arrive pas quand même par hasard comme ça à remplacer le peintre sur verre de l'atelier. Donc moi, j'étais en licence d'art plastique à Lille 3. Je terminais ma licence, ça tombait à ce même moment. Ça faisait longtemps que je peignais, je faisais du dessin, etc. Et donc j'ai suivi une formation en peinture sur verre à Chartres, au CIV, et Centre International du Vitrail. Et donc au Centre International du Vitrail pendant un an. Et après, j'ai rejoint l'équipe de chez Simon Marc, où j'ai appris le reste du métier et notamment la peinture sur verre avec Alain Buisson qui, avant de prendre sa retraite méritée, m'a transmis son savoir-faire, ses techniques, ses astuces, etc. Et notamment l'identité aussi, les astuces de chez Simon Marc, la manière de peindre, etc.
Pourquoi la peinture sur verre comme choix d'expression artistique ? D'ailleurs, est-ce que ça apporte beaucoup de liberté ? Parce que c'est aussi une technique où il y a beaucoup de contraintes.
Alors, je ne l'ai pas réellement choisi, parce que c'était une proposition qui m'était faite, du coup, à la fin de mes études, de rejoindre l'atelier. Moi, je voulais faire un métier artisanal quand même. Je ne me destinais pas à prendre une voie artistique, être peintre, devenir peintre ou dessinateur. Forcément, j'aimais plus le travail en atelier, au sein d'une équipe aussi. Donc l'artisanat d'art, c'est vrai que ça lie un peu les deux. Et la peinture sur verre, donc je l'ai découvert en rejoignant l'atelier Simon Marc. C'est plus contraignant que de la peinture classique. Il y a quand même une certaine rigueur, un savoir-faire, des étapes à respecter. Après, c'est quelque chose qui... C'est surtout par rapport à la couleur. Dans le vitrail, on n'est pas en peinture sur verre, on n'est pas coloriste, mais on utilise donc le verre soufflé coloré. Et la peinture sur verre, ça s'accompagne aussi de la gravure sur verre, du sablage, etc. Et on travaille avant la couleur du verre, donc du verre émaillé, soufflé. On travaille d'abord la couleur, mais c'est pas nous qui donnons la couleur. Par contre, on travaille avec une couleur et la transparence qui est, je pense, c'est incomparable par rapport à la peinture classique sur toile, etc. Là, on a presque une matière vivante qui vit avec les ambiances du jour, du soleil, etc. Donc c'est un peu une autre dimension. Et la peinture sur verre, nous, on vient avec la grisaille, un petit peu d'émo, etc., on vient faire jouer cette couleur du verre et donner l'expression de la maquette. C'est une transcription. On reçoit une maquette qui est papier, une peinture, et on doit la transcrire avec le verre. Donc c'est avant tout quand même le travail du verre, presque avant la peinture sur verre. Mais tout ça, ça forme un tout. Et l'idée, c'est de retranscrire le plus fidèlement possible une maquette, tout en lui donnant la dimension vitrail et la dimension de la transparence, de la lumière, la texture du verre, etc.
Autant de liberté, finalement, pour toi que sur papier ? Est-ce que ces contraintes te donnent de la liberté ?
C'est différent. Je trouve que c'est différent. Je pense que la réalisation d'un vitrail, c'est d'abord une maquette sur papier. Mais après, ce qui est intéressant, c'est de voir évoluer cette maquette, les idées qu'on avait eues sur papier, les couleurs. Quand on passe avec le verre, etc., c'est une nouvelle réflexion, c'est une deuxième œuvre, en quelque sorte. C'est une discussion avec la maquette qui se fait au fur et à mesure de la conception du vitrail, mais ça part d'une maquette, donc il faut savoir dessiner retranscrire, etc. Mais on s'attaque à un autre sujet qui est le vitrail, qui se construit comme un tableau aussi, mais du fait de la transparence et du verre, on s'attaque à... Moi, je dis toujours qu'il y a une autre dimension qui est la lumière du jour, la luminosité, etc. Et c'est autre chose.
Donc, des années chez Simon Marc, toi, on tend plutôt du côté de la peinture.
Après, chez Simon Marc, on était polyvalent, donc ça dépend du travail. Parfois, il fallait partir pendant plusieurs semaines en chantier. Ensuite, on revient en atelier, on réalise le vitrail. Il y a une partie peinture, et puis après, il faut retourner en chantier poser la réalisation, mais c'est assez complet. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit toutes les étapes, tout le processus de création ou de restauration du vitrail.
Aujourd'hui, Radio Primitive a calé ses micros à côté d'une feuille de verre et d'un couteau à plomb et vous invite à l'atelier UZB, émission spéciale.
Quand est née l'envie d'ouvrir votre propre atelier, tous les deux ? Quel cheminement ?
C'était une envie qui... Moi, je pense, au bout de à peu près 5 ans chez Simon Marc, j'ai eu envie de m'exprimer aussi à travers le vitrail. Et ça, j'ai commencé à y réfléchir, savoir comment faire, etc. Après, au moment du rachat par M. Tétinger et Varin de l'atelier Simon Marc, nous, on a eu la possibilité de partir de chez Simon Marc et de créer notre propre atelier. Donc, c'était l'occasion et on s'est lancé.
C'était une envie à deux ou est-ce qu'il y a eu un moteur pour l'un des deux qui était plus moteur que l'autre ?
Peut-être plus moi, mais après, ça s'est vite, c'était vite une envie à deux. Le travail de vitrailliste tout seul, c'est un travail d'équipe. Pour moi, c'est un travail d'équipe. Si on veut travailler dans les églises, etc., c'est un travail d'équipe. Donc c'était assez naturel que mon père il me rejoigne dans l'aventure.
Et donc, cette ouverture, la recherche du local, le matériel, on veut bien toutes les étapes.
Bah, ça a démarré, ce que tu dis, par trouver un local.
Prendre la place, quand même.
Ça prend de la place. Après, là, on a un local... On commence à manquer de place, mais ça va assez vite. Et puis après, il y a le matériel, etc., tout l'équipement. On s'est aussi fabriqué une table lumineuse. On a cherché tout le mobilier, etc., comment s'équiper. Après, on avait tous les fournisseurs qu'on connaissait déjà, etc. Après, il faut s'acheter un stock de verre, des marais. Et puis après, le plus dur, c'est faut se faire une place. Donc, on travaille essentiellement avec les communes pour la restauration d'églises. Après, on travaille pour du privé aussi, etc., du designer d'intérieur, architecte et puis commande privée. On va développer sur Villers-Allerand donc un second atelier pour proposer des stages d'initiation aux techniques du vitrail ou perfectionnement pour ceux qui connaissent déjà un petit peu. Voilà, là ça fait 2 ans et on a du travail, comme je te dis, essentiellement quand même les communes, etc. Donc c'est le cœur du métier. Après on développe toujours un côté artistique dès qu'on a du temps, faire des pièces, des créations, etc. Et puis c'est un tout. Je pense qu'on veut pas abandonner le vitrail traditionnel, mais on veut explorer de nouveaux sujets dans le vitrail. Et ça, on partage ce temps-là, donc entre, on va dire, vitrail classique et puis du vitrail plus actuel et contemporain.
Qu'on parle d'église ou de commune, on parle surtout de boulot de restauration ?
Essentiellement de restauration, un peu de création. Là, c'est dans l'Aube, on a une église avec moitié création, moitié restauration. Après, on est quand même dans un métier de conservation du patrimoine. Donc, on restaure, on remet à neuf les vitraux. Et souvent, dans les communes, les vitraux ont disparu. Donc, c'est là où on fait appel à de la création. Et c'est des sujets, par exemple, là, ce qu'on nous a proposé, je trouve que c'est une super idée, c'est, euh, c'est de, pour la partie création, donc dans une église, c'est de travailler avec les enfants de la commune. Donc c'est de trouver, de s'accorder avec le restant des vitraux et de l'architecture de l'église, de le faire en collaboration avec les enfants de la commune qui vont faire des maquettes et nous on va les réaliser. Donc tout en les dirigeant, etc. Mais je trouve que c'est une belle idée.
Est-ce que c'est important d'avoir aussi des notions d'architecture? Parce que les vitraux ne vivent qu'une fois qu'ils sont posés, que ce soit dans de l'ancien ou même des constructions contemporaines. Est-ce qu'il y a eu besoin aussi pour vous de travailler là-dessus, d'acquérir des compétences, des connaissances?
Donc on est en relation étroite avec les architectes, les monuments historiques ou non. Et donc il faut d'abord savoir lire un plan d'église. Donc après, c'est pas sorcier, ça va être le chœur, la nef, le transept, le narthex, s'il y en a un. C'est des mots un petit peu savants, mais on se repère assez rapidement. Une église, c'est une croix. Hein. Et donc ça, c'est la base pour un petit peu se repérer. Et puis après, on va travailler, nous, en relation étroite, surtout avec les tailleurs de pierre, les maçons tailleurs de pierre. On va intégrer le vitrail dans une feuillure, une rainure. Les fenêtres, ça va être une fenêtre simple, une fenêtre avec des lancettes. Après, dans les formes en haut, on parle de cintre, trilobe et coinçon. Mais ça, ça s'apprend vite. Et puis, c'est quelque chose qu'on apprend sur le tas. Il n'y a pas besoin de grandes études d'architecture. Ça va.
Mais il faut faire travailler d'autres corps de métier, en tout cas, au moment de la pose, oui, ou de la dépose.
Nous, on s'intègre dans une ossature. Donc il y a la pierre, il y a la serrurerie, les boiseries. Donc on travaille avec des serruriers ferronniers, les maçons tailleurs de pierre et des menuisiers, si c'est une menuiserie. Donc on travaille avec étroitement, donc avec trois corps de métier.
De la restauration, vous pouvez être amené à travailler sur n'importe quel siècle. Vous avez des préférences, des...
On répond à toute restauration. Après, il faut savoir que pour des vitraux classés, notamment du 16e, 13e, on fait appel à des restaurateurs diplômés, donc diplôme des métiers d'art, pour des protocoles scientifiques respectés. Donc il y a tout un protocole pour soit refixer des grisailles ou nettoyer simplement des grisailles. Souvent, c'est quand...
Ça, c'est les peintures.
C'est les peintures sur verre pour pas les abîmer, pas les altérer, et qu'elles tiennent dans le temps au mieux possible. Donc ça, on suit des protocoles assez stricts avec le laboratoire des monuments historiques. Je crois que c'est à Vannes-le-Châtel. Et donc ça, c'est presque un métier plus scientifique. Donc nous, là, on fait appel à des restaurateurs qui nous guide dans le choix, d'après l'état sanitaire des vitraux, dans le choix des techniques à appliquer, etc. Et ça, nous, on respecte le protocole. Et une fois ce protocole respecté, là, on revient à notre métier plus traditionnel avec la mise en plomb et la coupe et la restauration, la peinture. Mais là, on approche plus d'un domaine scientifique pour les vitraux classés. Sinon, après, pour des vitraux 20e, 19e non classés, il y a des protocoles à respecter aussi, mais on n'est pas soumis à un restaurateur qui a un diplôme des métiers d'art, forcément. Donc là, mais après, lui, c'est sûr que c'est une partie un peu plus scientifique à respecter pour conserver au maximum la peinture qui peut dater des fois, oui, du 12e, 13e siècle. Quoi.
Donc des compétences un tout petit peu en architecture quand même, un petit peu en chimie, un petit peu en art, ça fait déjà pas mal de choses.
Oui, après, c'est, tout ça, c'est un petit peu une cuisine. Après, on connaît les recettes, il y a la technique. Et puis le côté scientifique, moi, j'appelle ça parfois un petit peu une cuisine. Et on connaît la recette, on l'applique. au gramme près, c'est de la pâtisserie, et il faut respecter, et puis ça fonctionne.
Avant de parler des créations, encore un petit temps sur les restaurations, est-ce qu'il y a des édifices où on peut voir ce que vous avez pu réaliser les deux dernières années, depuis que l'atelier est ouvert ?
Alors, pour le moment, on a travaillé sur des restaurations, essentiellement ce qu'on appelle des vitreries. Donc, c'est du vitrail losanger, vitrerie borne, etc. Là, sur notre deuxième année, là, on a eu la chance d'avoir des chantiers où on va restaurer des peintures. Donc, c'est essentiellement du 19e et début 20e. Donc, il y aura l'occasion dans les années qui suivent. Après le temps de l'installation, il y a eu aussi le temps de répondre à tous ces appels d'offres publics. Donc là, ça y est, on commence à avoir un bon roulement autour de chez nous, donc de l'Oise en passant par la Haute-Marne et le nord de la France. Pour le moment, non, on n'a pas... Si, on a eu, sur Metz, on a restauré une peinture sur l'église Saint-Fiacre. C'était une Sainte-Cécile, donc des années 50, je crois, ou 60, peut-être. Donc là, c'était vitraux contemporains, donc c'est pas, il n'y avait pas de protocole plus que ça adopté, mais voilà, c'est les seules peintures qu'on a restaurées pour le moment, et puis on va s'y attaquer très prochainement, je pense.
Pas de préférence d'époque ?
Moi, personnellement, je préfère les peintures contemporaines. C'est un geste plus libre, c'est aussi un style et une manière de peindre plus intéressante. Après, le vitrail classique, c'est des protocoles, c'est très, très cadré. Et moi, c'est vrai que je m'amuse un petit peu moins, mais c'est aussi intéressant d'en faire de temps en temps.
J'ai essayé de poser des questions sur plusieurs années aux gens pour voir s'il y avait un désamour commun du 19e siècle et des peintures qui collaient mal. Donc non, pas de...
Alors, c'est pas un désamour, mais c'est une époque, notamment, surtout au 19e, début 20e, c'est une époque où il y a eu beaucoup, 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 beaucoup de vitraux. Des vitraux qui étaient faits en atelier presque à la chaîne, sur catalogue. Et en fait, il n'y a pas de valeur artistique pour moi, il y a une valeur patrimoniale, il y a une valeur historique. Mais on ressent pas le geste ou la main d'un maître verrier, d'un artiste, etc. Donc c'est vrai que c'est un peu moins sensible, c'est quelque chose de... Voilà, c'était des vitraux faits à la chaîne, on reconnaît toujours les mêmes gestes, etc. Donc c'est forcément un peu moins... Il y a moins d'émotion à restaurer des pièces comme ça, même si on sait que ça a une valeur artistique et une fragilité aussi dans le temps, donc on en prend soin, mais... C'est vrai que quand on découvre des pièces où on reconnaît une patte d'un maître verrier, d'un peintre, etc., il y a un peu plus d'émotion et un peu plus aussi de recherche à respecter ce geste, à respecter cette identité. Donc c'est peut-être un peu plus, selon moi, un peu plus intéressant. Ça, c'est des affinités que d'autres vitraillistes ne vont peut-être pas forcément avoir, et ça, c'est plus personnel.
I'm not afraid to die.
Vous écoutez toujours Radio Primitive. Nous sommes avec Léo Usabiaga à l'atelier UZB où nous évoquons un savoir-faire ancestral, pourtant terriblement contemporain, l'art du vitrail.
Au niveau des créations, à présent, un atelier rien qu'à soi, en tout cas rien qu'à vous, ça permet effectivement sûrement plus librement de proposer des travaux personnels. Comment ça se passe au niveau des créations? On a parlé un peu d'un projet qui va être mené avec des très jeunes habitants d'une commune. Est-ce qu'il y a vous pouvez proposer, d'ailleurs, comment ça se passe? Vous pouvez proposer des choses prêtes en main ou il y a toujours un cahier des charges? Quelle est la mise en place?
Alors, dans les créations, il y a un cahier des charges qui est à respecter quand on s'intègre dans une église où on doit respecter quand même le lieu, etc. L'architecture, il peut avoir aussi une commission d'art sacré qui est légitime de donner son avis.
Ils donnent leur avis d'un point de vue artistique ou même au niveau des choix
des sujets.
Oui,
bien sûr, c'est des sujets. Après, faut pas oublier qu'on est dans un lieu de culte, donc il y a quand même des codes à respecter. Il y a aussi, c'est un lieu historique, donc faut pas le dénaturer, je pense. Donc c'est toute une réflexion à avoir, et donc c'est là où il y a un cahier des charges qui est imposé. Et où nous, on doit s'imposer un cahier des charges. Il y a une réflexion, on ne fait pas ce qu'on veut. Il y a toute une petite réflexion à mettre en place, à regarder les vitraux qui sont autour, à regarder l'architecture. Donc dans la création, on n'est pas totalement libre quand on s'intègre dans un lieu. Après, techniquement, on n'a pas trop de limites dans la traduction d'une maquette. Nous... notre savoir-faire fait qu'on peut transcrire à peu près n'importe quelle maquette. Maintenant, dans le côté artistique, nous, on va plus le proposer sur des objets de création d'atelier indépendants d'un lieu et d'une architecture. Quand on s'inscrit dans une architecture, même privée, etc., je pense que c'est une discussion à avoir avec les commanditaires, avec les gens qui utilisent ce lieu aussi. Donc là, c'est plus une discussion qu'on a. S'il y a un artiste qui crée la maquette, on n'est pas forcément créateur du vitrail, on le réalise en tant qu'artisan aussi. Donc là, c'est une discussion, une étroite discussion qu'on a ensemble, où, comme je disais tout à l'heure, c'est qu'on démarre d'une maquette, d'une idée, et on passe sur un vitrail, donc tout ça, ça évolue. Peut-être qu'à un moment donné, finalement, on va changer une couleur, parce que... le verre, c'est pas le même rendu que sur papier. Et ça, c'est un travail tout au long de la réalisation, à chaque fois à se reposer les questions, à présenter le vitrail, le regarder en lumière naturelle et voir un petit peu comment ça fonctionne. Donc c'est vraiment une réflexion du début jusqu'à la fin. Et quand on s'intègre donc dans une église, là par exemple... L'idée de le réaliser avec les enfants de la commune, c'est de eux aussi de les faire participer à cette réflexion et de leur montrer qu'ils visitent l'église, qu'ils regardent les vitraux qu'il y a autour, les couleurs, etc. Et essayer de définir une palette, une gamme de couleurs. Est-ce qu'on part sur de l'abstraction ou non? C'est plein de réflexions et tout ça, ça se fait collégialement avec l'architecte, les gens de la commune, etc. Donc nous, on est vraiment à l'écoute. On est là aussi pour les guider. C'est une discussion, on le fait en contradiction. Des fois, nous, ça nous plaît pas, donc on donne aussi notre avis. Mais à la fin, voilà, à la fin, c'est un commun accord. Et l'idée, c'est vraiment de donner le mieux et que ce soit sans mettre de côté un avis ou non. Je pense que c'est... le but du vitrail, c'est quand même, c'est pas que pour soi, c'est pour tout le monde, c'est des lieux qui se visitent, qu'on soit dans les églises athées ou croyants, donc faut respecter toutes ces sensibilités-là.
Comment définir, alors à la radio, il n'y a pas d'image, comment définir avec des adjectifs la patte, la signature des créations qui sortent de votre atelier? Peut-être les créations vraiment d'atelier, celles où vous avez vraiment champ libre. D'ailleurs, est-ce que c'est un vous ou est-ce qu'il y a deux personnalités vraiment différentes qui proposent des choses différentes?
Alors, il y a dans les créations vraiment d'atelier, donc il y a moi et mon père. Donc mon père, il dessine aussi, il a aussi une sensibilité artistique, donc il va avoir sa signature, il va avoir la mienne aussi, et ça, on distingue vraiment. Moi, je suis plus dans le portrait, j'aime bien les portraits, le figuratif. Mon père, il va aller de l'abstraction à des choses assez expressionnistes, figurative aussi, donc là-dessus on arrive à nous reconnaître et à nous distinguer. Après, pour la signature d'atelier, ça va être plus dans la technique, c'est-à-dire qu'on travaille quand même essentiellement le verre donc soufflé émaillé. Donc pour décrire rapidement, le verre soufflé émaillé, donc c'est du verre soufflé à la bouche, donc des feuilles de verre soufflé à la bouche, émaillé, donc ce qui nous donne la possibilité de travailler un émail. L'émail, c'est ce qui donne la couleur au verre. Et cet émail, on va le travailler à l'acide, au sablage, ce qui va nous permettre d'accentuer et de donner de la nuance, et comme un effet aquarellé ou non au verre. Donc ça nous laisse quand même un champ de possibilités assez grand. Et après, le travail de la peinture, des émaux, etc. Donc ça, c'est aussi l'identité. On travaille tout ce qui est possible dans le vitrail grâce surtout à l'acide et au sablage. Il y a des ateliers, ils font essentiellement de la coupe, de la mise en plomb. Nous, on travaille beaucoup chaque pièce de verre pour y mettre de l'effet, de la matière, de la vibration, etc. Donc ça nous crée un peu aussi quand même une identité d'atelier de par la technique, on va dire. Après, on propose aussi des pièces en rétroéclairage. Ça, c'est toujours dans la volonté de proposer un vitrail un peu plus contemporain et design. Et ça va être, voilà, les signatures, ce qu'on aime travailler, quoi.
Il est tard et on chante, et la ville aveuglante est si belle. Les maisons sont quelconques mais bien lisses. Les maisons sont couvertes de goudron mais si lisses et ouvertes à ton cœur en fusion. Et tu touches à l'espoir et tu glisses. Un regard et un jour il s'accroche, on rebouche les fissures, on referme tous les murs. On retaille dans la roche, on répare le vitrail, on disperse le brouillard, plus de gel ni d'averse dans les nuits, rien ne lasse, on ne fuit plus les belles. On oublie le poison, je préfère aux morues et aux figues. La sueur de la rue, je préfère la fatigue de mon front qui se trempe. Je préfère la chaleur de tes tempes et les fleurs que j'arrose. On oublie le poison, je préfère. Un regard et un jour il s'accroche, on rebouche les fissures, on referme tous les murs.
Radio Primitive s'est invitée rue du Commerce, à Reims, dans l'atelier UZB, où on coupe le verre, où on l'enchasse, mais où surtout on crée. Rencontre avec Léo Usabiaga.
On fait une visite commentée ?
Oui. Donc là, on est face à la table lumineuse. Et c'est pour présenter les vitraux, les feuilles de verre. Donc c'est une table rétroéclairée, une grande table pour présenter notre travail. Et ça nous permet de travailler quand on n'a pas forcément, comme aujourd'hui, une belle lumière du jour et le temps n'est pas là. Donc on présente et on travaille sur table lumineuse. Ça nous permet de choisir dans les feuilles de verre là où on va tirer nos pièces, etc. Ça nous permet de peindre aussi, on peint directement sur la table lumineuse.
Il y a des feuilles, des cadres.
Pour résumer la fabrication d'un vitrail assez rapidement, donc on part d'une maquette. Donc là, on travaille sur la copie d'un carton. Je ne sais pas si c'est du maître verrier Gruber.
Ça aussi, on veut bien un petit explicatif sur le mot carton.
Le vitrail, on part d'une maquette. Cette maquette, on va l'agrandir à l'échelle voulue, donc à échelle 1. Donc ça, on va agrandir la maquette, on va prendre un calque, et là, on va définir ce qu'on appelle le tracé de plomb, donc ce qui va définir, selon les couleurs et le dessin du vitrail, la coupe. Une fois qu'on a défini ce tracé de plomb, on va définir aussi la palette de couleurs, donc on va mettre nos références de verre, etc. De ce calque, on va le reporter avec un papier carbone sur un carton, donc un papier cartonné. Ce papier cartonné, on va le découper avec un ciseau triple lame, donc pour retirer l'âme du plomb. Et donc ça va nous donner tous les calibres pour couper nos verres. Une fois qu'on a tout ça, on va passer à la coupe, donc sur les tables en bois derrière. Donc on va couper chaque pièce avec les références du calibre, etc. on va présenter ça sur la table lumineuse, et là on va y faire ou non, selon la maquette, un travail d'acide, un travail de sablage, un travail de peinture. S'il y a un travail de peinture, les pièces elles vont partir en cuisson, donc on cuit à peu près selon les peintures, les grisailles et les émaux à 630 degrés on va dire. Une fois que la cuisson est terminée, on passe à la mise en plomb, donc on va sertir toutes ces pièces, tout ce puzzle avec du plomb, donc un plomb profilé en H qui va épouser de part et d'autre chaque pièce. Chaque plomb, chaque intersection de plomb vont rentrer les unes dans les autres et on va souder aux deux faces. Une fois que tout ça s'est soudé, on va graisser le panneau avec un mastic semi-liquide à l'huile de lin. On attend un mois, il se rigidifie et là on peut le poser en église où on veut.
Pour les découpes, on n'est pas loin d'une table de patronage de couture en fait.
Ça ressemble, oui, ça ressemble. On a besoin de calibres, on a les calibres, ce qu'on appelle les calibres, on pourrait appeler ça des patrons en soi. Donc oui, ça revient un petit peu dans les mêmes processus. Au début, on a un puzzle et puis il faut l'assembler. En couture, on va coudre tout ça ensemble. Nous, on coud avec le plomb, quoi, pour imager. Prêt à on a le four, l'étape de coupe, table de coupe, table de mise en plomb.
Le plomb, il arrive déjà prêt en hache ou
oui,
c'est
là.
Vous qui le préparez ?
Non, nous on ne travaille pas le plomb. Donc on achète des plombs de différentes épaisseurs en profilé hache. Et selon encore une fois la maquette, le dessin, on sertit toutes les pièces avec tout ça.
Vous n'avez pas la terrible épreuve du laminoir qui ruine
non,
les doigts.
Ça c'est interdit, Ceux qui travaillent, donc nous le plomb il est donc en profilé H et on ne chauffe pas le plomb. Quand on soude, on soude à l'étain, on met une pointe d'étain, mais le plomb ne fond pas, on ne chauffe pas le plomb, ça c'est interdit, c'est réservé à des sociétés voilà, qui ont tout un protocole quand même en normes d'hygiène, etc., qui sont habilités à le faire. Nous, c'est strictement interdit. Mais j'ai connu chez Simon Marc, il y avait encore les vieilles machines, ils n'utilisaient plus, bien sûr, mais j'ai vu les machines, les vieux laminoirs, où ils chauffaient le plomb pour étirer le plomb, etc.
Mais là, on le faisait à l'école aussi.
Ah ben, c'est interdit maintenant. Non, on est déjà assez... après, on a un protocole... On respecte les normes d'hygiène, mais maintenant, non, c'est assez encadré. Et nous, on n'a pas le droit de dénaturer le plomb avec lequel on travaille. Quoi. Et aussi pour les peintures, qui sont aussi des peintures, il y a tout un protocole d'hygiène à respecter pour travailler en sécurité. On n'est pas là pour s'abîmer la santé ou quoi.
Tu peux sortir, toi.
Regarde le temps qu'il fait.
Ici, du coup.
Elle a squatté il y a un an et demi. Elle était toute rachitique, sous une brique, tout ça. Donc elle passe ses journées ici. Elle dort pas dans l'atelier. Hein. Ça reste un cheval. Et la mise en plomb.
Et donc les feuilles de verre, elles sont stockées où dans l'atelier ?
Alors, tu as plusieurs portoirs, donc il y en a un petit peu selon les chantiers, il y en a là, il faut qu'on range là pour la nouvelle année de 2024, refaire un petit tri, et puis on va se refaire aussi un stock, on essaye assez régulièrement d'aller, donc c'est du verre de la verrerie de Saint-Just, donc qui sont près de Saint-Étienne, à Saint-Just, et je crois qu'on dit Saint-Just d'ailleurs. Pardon. Et donc c'est du verre soufflé à la bouche, donc c'est-à-dire que le souffleur de verre avec sa canne, il prend une ampoule de verre, il va souffler donc sa bouteille dans la fosse avec un mouvement de balancier. Une fois que sa bouteille elle est soufflée, il va la remettre à l'horizontale, il va mettre, tant qu'elle est encore chaude, un petit coup de roulette dessus, et après il va la repasser au four, et avec la chaleur ça va s'ouvrir, la feuille va s'ouvrir et il va la racler pour la mettre le plus plat possible. Donc le verre soufflé est jamais réellement plat. Donc c'est pour ça qu'on appelle ça du verre soufflé, mais que c'est du verre plat.
Ce qui rajoute encore un corps de métier dans tout notre processus.
Oui, dans les fournisseurs. Donc il y a les fournisseurs de plomb. Et puis les fournisseurs, la matière avec laquelle on travaille, donc le verre soufflé, qui est une matière noble et magnifique. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure, on n'est pas coloriste en tant que peintre sur verre. C'est les coloristes, c'est les souffleurs de verre. C'est eux qui donnent cet aspect magique à la feuille de verre avec des grands dégradés et de la vibration. Comme c'est du verre qui n'est pas plat, qui n'est pas mécanique, il y a toute une vibration et des effets qui sont naturels dans la feuille, et parfois on reçoit des feuilles, on n'a même pas envie de les travailler, on a envie de les encadrer et puis de les mettre telles quelles. Donc on a la chance de travailler quand même avec là aussi qui sont aussi des maîtres verriers, mais des maîtres verriers souffleurs de verre qui nous donnent une matière sublime pour travailler, quoi. Donc la verrerie de Saint-Just, c'est vers Saint-Étienne, et j'invite tout le monde à regarder une petite vidéo, de voir comment c'est fait le verre soufflé qu'on utilise, c'est magnifique.
Et on est à côté du four.
On est à côté du four, donc c'est un four fusing, mais nous on l'utilise essentiellement pour la peinture, pour cuire donc les pièces, la peinture qui est à peu près à 630 degrés. Les cuissons sont entre 540 et 630 degrés.
Il y a un processus aussi, on ne monte pas d'un coup et...
Non, sinon ça explose. donc si on monte par palier, donc on va avoir une cuisson, la cuisson classique, le four monte de 0 à 430 degrés. Ensuite, en 50 minutes, il va monter de 430 à 530. Ensuite, il va monter de 530 à 630. Il va rester 15 minutes à 630. Et après, il fait une courbe descendante. Et on n'ouvre pas son four au-dessus de 100 degrés. Sinon, il y a un choc thermique. Enfin, il y a des risques de choc thermique. Je disais tout à l'heure, c'est la cuisine. C'est comme cuire notre pizza. Il faut, voilà.
Et on se demande bien comment ils faisaient avant pour respecter des paliers de cuisson pareils.
Alors, avant, quand ils étaient dans des fours à bois, fours à charbon, pour respecter les paliers, ce qu'ils faisaient, c'est que donc il y avait la personne était responsable du four, donc elle avait un œil. Déjà, elle voyait, elle regardait la couleur du verre, ça lui a indiqué à peu près la température, et il se mettait un petit morceau de verre témoin. Quand il commençait à fondre, il savait aussi contrôler la température. Après, quand le verre était rouge cerise, c'était que là, c'était bon pour la cuisson. On enlevait le charbon et là, on refaisait la courbe descendante. C'était assez empirique et approximatif. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, dans les restaurations, on a énormément de grisailles qui ont été mal cuites et qui ne tiennent pas dans le temps. Donc nous, on a la chance, maintenant, on travaille avec des programmateurs, une télécommande, c'est moins risqué quand même pour la grisaille, des mauvaises cuissons, etc. Mais c'était un rôle à part entière dans l'atelier de s'occuper du four.
Il y a aussi un espace pour le sablage et les gravures.
Là, on a la cabine de sablage, donc avec la sableuse, un compresseur, et le verre, on le sable avec... On parle de sablage, mais c'est pas du sable, c'est du corindon. Donc c'est des poussières d'aluminium. C'est le corindon le plus fin pour avoir un aspect le plus doux possible. Et c'est ce qui nous permet de faire des choses très fines avec des masques ou alors des grands dégradés, des choses pour dégrader justement l'émail du verre avec lequel on travaille. Et donc là, la cabine à acide, donc avec l'extracteur, avec le bac pour récupérer l'acide, etc. Et puis toutes les protections qui s'en suivent, donc le masque, la blouse, les bottes, etc. Et c'est un acide fluorhydrique qui vient mordre l'émail du verre pour, comme au sablage aussi, faire du dégradé, du dessin, etc. Donc ça accompagne tout le projet d'une maquette, ça lui donne voilà, vraiment du relief, de la vibration, et ça nous donne une liberté par rapport au verre qu'on a, de le travailler et d'être au plus fidèle des maquettes qu'on désire réaliser en vitrail.
Vous êtes toujours à l'écoute de Radio Primitive, émission spéciale consacrée à l'atelier UZB et à l'art du vitrail.
On a parlé un peu des projets à venir avec Villers-Allerand. On peut peut-être revenir un petit peu dessus et puis aussi sur cette ouverture. Alors déjà, cette ouverture au public éventuellement dans...
Pour
faire des ateliers.
Ouais.
Et puis, en tant que particulier, par exemple, si on veut vous contacter pour cette fois-ci des projets de vitraux à domicile ou autre.
Pour commencer sur le projet à Villers-Allerand, donc on espère, on s'est donné pour objectif d'ouvrir en mars le second atelier. Donc c'est un espace qui va nous permettre déjà de nous agrandir parce que ici, rue du Commerce, on commence à plus avoir assez de place.
Mais vous garderiez l'espace
ici ? Oui, voilà, c'est ça. Et donc, et à Villers-Allerand, ça nous permettra aussi d'accueillir pour des stages d'initiation et de perfectionnement au vitrail. Donc, ça démarrait plutôt à partir du mois d'avril. Cet espace aussi à Villers, donc c'est un projet avec la commune de Villers-Allerand. C'est de créer un lieu aussi de vie et un lieu culturel. Donc l'idée, c'est aussi de donner rendez-vous pour des expositions, pas forcément du vitrail. Nous, on a pour projet, donc avec l'inauguration, c'est d'inviter plusieurs artistes et de les laisser s'exposer et nous, en partenariat, de faire un petit vitrail avec chacun d'eux. Donc ça, c'est pour l'inauguration. Et l'idée, c'est de répéter ce genre d'événement une ou deux fois par an. Donc ça, il y aura toutes les informations sur le site de l'atelier, donc atelier UZB, je pense que vous nous retrouverez. Et sinon, si vous avez des projets, vous contactez pareil via le site, il y a mon numéro, il y a l'adresse mail, etc. Et nous, on vous accompagne dans tous les projets de création ou de restauration de vitraux, surtout pour des projets de création. On est aussi là pour guider aussi les gens. C'est pas forcément anodin de faire un vitrail chez soi. C'est là où on a aussi tout un travail où on regarde avec les gens. Justement, on parlait des lieux, etc. Le vitrail, aujourd'hui, de proposer du vitrail à ses designs et à ses contemporains pour... aussi pour les particuliers, pour les intérieurs. Les gens ont tendance à penser un vitrail chez eux, tout de suite quelque chose de figuratif et d'assez lourd aussi, comme on avait l'habitude de faire avant. Aujourd'hui, ça peut être que quelques pièces et des choses assez légères. Donc c'est là aussi on a envie de travailler à montrer une nouvelle image du vitrail, un nouveau design dans le vitrail, quoi. Dépoussiérer un petit peu tout ça.
Nous allons à présent laisser Léo explorer les couleurs de ses casiers et ranger ses cartons, car cette émission est, en effet, terminée. Radio Primitive remercie l'atelier UZB et Léo et Eric Usabiaga. Vous pouvez retrouver cette émission en podcast sur le site internet de Radio Primitive dans la rubrique « Émission spéciale ».